Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la chance donc de recevoir notre collègue Sylvie Crasquin, qui est venue en voisine parce qu'elle connaît les lieux, elle habite juste à côté. L'université Pierre et Marie Curie, c'est combien ? C'est 300 mètres, hein ? À peu près, oui. Sylvie est directeur de recherche au CNRS. Elle co-dirige une UMR de paléontologie et de phylogénie. C'est 2P, c'est ça, CR2P. Oui, ils sont toujours des sigles, des acronymes dont on...
Paléobiodiversité et paléoenvironnement.
Vous savez tout. Entre le muséum et Pierre et Marie Curie. Elle est paléontologue, c'est pas une insulte. Elle s'intéresse aux extinctions et après ce qui se passe après une extinction. Parce que contrairement à ce que souvent on pense, quand on parle d'extinction, les gens pensent toujours à cataclysmes, mais ce sont souvent des cataclysmes qui sont favorables et qui permettent autre chose. Enfin bon, c'est pas moi qui fais la conférence. Hein. On sait rien après tout. Hein. Et alors, pour faire ça, elle a beaucoup de chance, elle ne travaille pas sur les hominidés, c'est un milieu qui est beaucoup plus calme. Elle travaille sur des toutes petites bêtes qui sont des crustacés, et en l'occurrence des ostracodes. C'est tout petit. Quoi qu'il y en a quelques-uns quand même qui ont des coquilles. Ce sont des bêtes épouvantables pour les étudiants. Ça fait partie, je ne sais pas, quand j'étais étudiant, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais vous aviez, quand vous étiez, alors ce qu'ils appellent maintenant le L3, en dernière année de L3, vous aviez une liste de fossiles. Et dans cette liste de fossiles, il y en avait un certain nombre qui se retrouvaient le jour de l'examen. Et le jour de l'examen, il y avait toujours un ostracode que gaillardement vous preniez pour un lamellibranche, ce qui vous emmenait, voilà, vous voyez, hein. À toi Sylvie.
Merci beaucoup Michel. Alors je vais donc vous parler de façon assez ponctuelle, parce que je n'ai pas le temps pour vous parler de toutes les crises, de la biodiversité, à savoir est-ce un mythe ou est-ce vraiment une réalité. Alors, on va parler de biodiversité, donc il faut un petit peu cadrer les choses. Qu'est-ce que c'est que la biodiversité ? On en parle beaucoup. C'est un terme qui est relativement récent, qui est apparu à la fin du XXe siècle. Or, sa définition, bien, en fait, c'est une contraction de diversité biologique. C'est une expression qui englobe dans son intégralité la variété et la diversité du monde vivant. Donc, dans son sens le plus large, ça représente la vie sur Terre. Alors, j'attire sur votre attention, il ne faut surtout pas confondre biodiversité et biomasse. Vous prenez un éléphant, une fourmi, vous avez une biodiversité de 1 de chaque côté, et la biomasse n'est pas vraiment la même. Donc il faut faire attention à ça. Alors la biodiversité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont les arbres dans les forêts équatoriales, les petits oiseaux, les jolies fleurs, les choses dont on parle beaucoup, les bébés phoques, l'ours des Pyrénées, ou encore l'ours blanc ou les éléphants, encore les crabes, les coquillages. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, et bien sûr, étant micro-paléontologue, pour moi c'est extrêmement important, c'est les choses auxquelles on ne pense pas au prime abord, alors les anciennes variétés de céréales, ou encore les parasites, les moustiques, mais surtout tout le monde invisible à l'œil nu. Alors pour ce faire, je vais vous illustrer un peu cette importance du monde invisible à l'œil nu. Vous avez ici une lame mince, c'est-à-dire une couche très fine de roche qui est vue au microscope. Ici, la barre d'échelle représente 100 microns, et cette roche est constituée exclusivement d'un amoncellement de microfossiles qui sont ici des milléoles. Et vous voyez, ce ne sont que des microfossiles collés les uns aux autres. Ces microfossiles collés les uns aux autres forment des roches, et avec ces roches, on construit des monuments, et en particulier la cathédrale Notre-Dame de Paris est constituée pour sa façade essentiellement de ce calcaire à milléoles. Un autre exemple, toujours pour insister sur l'importance de ce monde invisible, d'autres micro-organismes, ici des numulites, toujours la barre d'échelle à 100 microns. Là aussi, cette accumulation de microfossiles constitue des roches. Et avec des roches, eh bien, on construit par exemple des pyramides. La pyramide de Khéops est entièrement formée de numulites. Alors, je vais d'abord essayer de replacer un petit peu, parce qu'on va parler beaucoup d'espèces, de genres, de familles, donc de recaler un petit peu tout ça. Alors, l'espèce biologique, qu'est-ce que c'est? Vous le savez tous, c'est des groupes de populations naturelles qui sont normalement, réellement ou potentiellement interféconds et isolés à la reproduction de tout autre groupe qui serait relativement proche. Alors, pour essayer de bien comprendre ce que c'est que l'organisation de cette... la façon dont on range les groupes, on va prendre un exemple pour faire une analogie. L'espèce qui va être l'unité de base de toute la biodiversité, on va pouvoir comparer ça à un livre. Vous avez dans votre, chez vous, plein de livres sur des tas de sujets différents et vous voulez ranger tous ces livres. Alors on va dire que le livre avec son titre, eh bien, c'est l'unité de base, c'est l'espèce, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez rien changer. Ensuite, vous pouvez classer, par exemple, vos livres par genre. C'est-à-dire, je vais mettre les romans policiers ensemble, les romans de science-fiction ensemble, et ça, ce sera le genre. Et tous ces romans, par genre, vous allez les mettre sur une étagère. Vous avez un deuxième ensemble, un deuxième niveau, qui sera le genre. Ensuite, vous allez mettre ces rangées, classées par genre, sur une bibliothèque, sur une étagère de votre bibliothèque. Ça, ce sera, par exemple, la famille. Et encore au-dessus, ben, cette pièce où vous avez toutes vos étagères, votre bibliothèque, eh bien, ce sera, par exemple, le phylum. Et donc, vous voyez, c'est une hiérarchisation, mais la seule chose que l'on ne peut pas changer, c'est l'unité de base, c'est l'espèce. Après, vous pouvez classer vos livres par couleur, par couverture, par tout ce que vous voulez, vous pouvez changer après, mais l'unité de base, c'est l'espèce. Actuellement, il y a 1 900 000, un petit peu plus d'un 1 900 000 espèces qui sont décrites. Donc ça, c'est la biodiversité actuelle telle qu'on la connaît. Alors ici, il va falloir passer à l'espèce fossile, parce que bien sûr, je vais vous parler des temps fossilifères. L'espèce biologique, c'est un idéal à atteindre. Il est évident que dans le fossile, on ne peut pas savoir si les espèces étaient interfécondes ou pas. C'est très très rare de pouvoir faire ça, surtout dans du très ancien. Donc, ce qu'on va définir, c'est une espèce typologique, une espèce morphologique. Et on tend à essayer d'être le plus près possible de l'espèce biologique. Alors, les espèces, le nombre estimé, je vous ai dit qu'on avait décrit 1,9 million d'espèces. Le nombre possible, dans son sens très large, c'est entre 3 et 100 millions, parce qu'il y a énormément d'espèces qu'on n'a pas décrites, qu'on ne connaît pas. Le nombre le plus plausible, ce serait entre 5 et 15. Mais la meilleure hypothèse actuellement, on estime à 7 millions d'espèces vivantes actuellement sur notre Terre. On en a décrit 1,9 million et il y en aurait environ 7 millions. Donc vous voyez déjà que l'estimation même de la biodiversité actuelle, on a une fourchette quand même qui est relativement importante entre ce que l'on connaît et ce que l'on suppose exister. Alors ces espèces, eh bien, il y en a des nouvelles qui apparaissent de façon tout à fait naturelle. C'est ce qu'on appelle la spéciation. Alors ce sont des populations qui initialement sont interfécondes et qui évoluent en deux espèces distinctes. Alors tout à l'heure j'ai entendu en arrivant Michel parler de cladogénèse ou d'anagénèse, il y a différents processus, mais le plus souvent ces espèces se différencient par séparation géographique. Pour une raison quelconque, deux populations sont séparées géographiquement et elles évoluent séparément pour donner des espèces différentes. Et puis, il y a des disparitions d'espèces. Alors, il y a celles qui disparaissent naturellement, donc je vous ai mis des exemples qui vous parleront très sûrement. Le mammouth qui a disparu de façon tout à fait naturelle, ou l'australopithèque. Alors là, j'espère que je n'ai pas écrit une grosse bêtise en disant qu'il aurait disparu il y a 1 million d'années. Et puis, il y en a d'autres qu'on a un tout petit peu poussé vers la sortie. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, le grand pingouin qui a disparu aux alentours de 1844, le dodo, emblématique des espèces disparues durant la vie de l'homme à la fin du XVIIe, ou encore le loup marsupial, qu'on appelle aussi tigre de Tasmanie, qui aurait disparu aux alentours de 1936. Alors, la paléobiodiversité, me direz-vous déjà, vous savez, je viens de vous dire, que sur la biodiversité, on était quand même, il y avait déjà quand même un certain flou. Alors, la paléobiodiversité, ça va être encore plus approximatif. On estime entre 5 et 50 milliards le nombre d'espèces disparues au cours de l'histoire de la vie sur Terre. Or, certaines ont disparu de manière extrêmement brutale et d'autres tout à fait lentement. Donc, environ 99,9% des espèces qui ont vécu sur Terre, eh bien, ont disparu au cours des 600 derniers millions d'années. La durée de vie moyenne d'une espèce est estimée à 4,8 millions d'années. Alors là, on commence à jongler avec des millions d'années, des choses comme ça, et on arrive au problème du temps. Le problème du temps, c'est quelque chose de fondamental et que tout le monde a énormément de mal à appréhender. Alors, comment va-t-on essayer de faire ? Si je vous parle d'une vie humaine, de 2, 3, 4 générations, tout le monde voit à peu près ce que ça fait. Alors, je mets toujours cette très jolie photo avec ce magnifique petit garçon qui est le mien, avec son arrière-grand-mère, 4 générations, on voit bien ce que ça fait. Si je vous dis maintenant 10 générations, vous vous dites 10 générations, ouais, pas de problème, je vois bien ce que ça fait. 220 ans, c'est la prise de la Bastille. Et là, oups, déjà, on se dit, ah oui, quand même, ça fait ça. Eh bien, cette notion de temps, dans ce dont je vais vous parler maintenant, il faut multiplier ça plusieurs millions de fois. Donc, je sais, le problème du temps, c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender. Donc, on va essayer, je vais vous montrer sur ce schéma extrêmement simpliste représentant le temps. Aux alentours de 4,6 milliards, c'est la création de la Terre, la formation de la Terre. L'apparition de la vie aux alentours de 3,8 milliards. Et l'explosion de la vie sur Terre aux alentours de la base du Cambrien, c'est aux alentours de 500 millions d'années. Et nous, ce qu'on va regarder ici, eh bien, c'est juste ce tout petit morceau-là, ce tout petit rectangle, qui en fait ne représente que 13% de l'histoire de la Terre et 15% de l'histoire de la vie. Tout ce qui se passe avant, eh bien, on n'a pratiquement pas de données, on ne sait pas grand-chose sur tout ce qui s'est passé avant l'explosion du Cambrien. Alors, vous allez peut-être trouver que ce que je vais vous montrer fait un peu simpliste, mais je voudrais vraiment attirer votre attention là-dessus, sur le travail du paléontologue. Je suis sûre que Michel a déjà expliqué ça, mais tant pis. Vous avez ici un écosystème avec des oiseaux, des plantes extrêmement variées, un bassin dans lequel il y a toute une vie qui se développe. Quand les animaux et les végétaux vont mourir, qu'est-ce qui va rester au paléontologue ? La matière organique va se dissoudre, va disparaître. Les éléments les plus durs ont une petite chance de poser sur le fond, de rester quelques années. Là encore, il y a des macrophages qui vont intervenir. Donc, en fait, à partir de cet écosystème, après la mort des individus, après l'enfouissement, après la compaction, il y a tout un système, tout un ensemble de processus qui vont intervenir. Et le travail du paléontologue, c'est de reconstituer l'écosystème en ayant uniquement ces tout petits bouts d'informations. Donc là encore, il faut bien se rendre compte que les données que l'on a, ça ne représente qu'une toute petite partie de ce que l'on avait au départ. Donc nous allons revenir à notre évolution de la biodiversité et aux grandes crises. Je vous représente ici une courbe d'évolution des familles marines. J'insiste beaucoup sur le fait que c'est une courbe de biodiversité marine. Alors nous partons du Cambrien, aux alentours de 500 millions d'années, et l'on voit sur cette courbe qu'il y a des phases de diversification, c'est-à-dire que l'on a plus de spéciation que d'extinction. C'est le cas sur l'ensemble du Cambrien Ordovicien, et c'est le cas sur l'ensemble en fait, du Mésozoïque, Cénozoïque, si on voit ça d'un petit peu loin. Il y a ensuite des phases de stabilité, où on a grosso modo autant de spéciation que d'extinction. C'est le cas durant le Silurien dévonien ou durant le Carbonifère permien. Et pour séparer tout ça, il y a des phases d'extinction plus importantes que de spéciation. C'est ce que l'on va appeler les crises biologiques. Alors ces crises biologiques, il y en a 5 importantes, c'est ce qu'on appelle les 5 majeures. Et je vais vous en parler un peu plus en détail. La première, ici, marque la fin de l'Ordovicien. La seconde marque la fin du Dévonien. Ouh là là, mes flèches ont un peu bougé. La troisième marque la fin du Permien. La quatrième, la fin du Trias. Et la dernière, la fin du Crétacé. Alors, je vous parle de crise. Qu'est-ce que c'est qu'une crise ? Si vous prenez la définition du dictionnaire, c'est un événement brutal et rapide. Qu'est-ce que c'est qu'une crise biologique ? Eh bien, pour que l'on ait crise biologique, il faut qu'on ait extinction en masse. Qu'est-ce que c'est qu'une extinction en masse ? Alors, pour avoir extinction en masse, il faut que cela réponde à 3 critères. Un critère taxinomique, un critère temporel et un critère spatial. Taxinomique, cela veut dire qu'il faut qu'il y ait disparition de rang élevé. Souvenez-vous tout à l'heure mes étagères. Il faut qu'au moins les familles soient affectées. Si vous avez une extinction d'espèces, ce n'est pas une crise biologique majeure. Et avec des modes de vie différents. C'est-à-dire qu'il faut que les différents biotopes soient affectés. ou alors une chute drastique de la biodiversité, nombre d'espèces, nombre de genres de familles, et de la biomasse. Le critère temporel, il faut que ces extinctions aient lieu en un temps très court. Alors très court, nous ne sommes pas paléontologues, géologues, c'est bien sûr instantané, comme par exemple la chute d'une météorite, ça peut difficilement être plus court, mais pour nous, entre 1 et 2 millions d'années, c'est quelque chose encore que l'on considère de rapide. Toujours ce problème de temps. Et le dernier point, c'est un critère spatial. Ces extinctions en masse doivent être ressenties à une très grande échelle géographique. C'est-à-dire que l'ensemble du globe doit ressentir ces extinctions, ou alors un très très grand bassin, un océan, quelque chose de, au moins de cette dimension-là. Si vous faites une extinction, même en masse, sur une petite mer intérieure, ce ne sera pas une crise biologique majeure. Alors, je vous montre ici le nombre d'extinctions de familles marines par million d'années. On voit donc qu'il y a un certain nombre d'extinctions relativement importantes ici, donc toujours ici le Cambrien, et l'on va jusque vers le plus récent. Et l'on considère en fait que tous ces points ici situés dans le bas de la courbe, c'est ce qu'on va appeler le bruit de fond. Il y a des extinctions, il y a des spéciations, plus ou moins importantes les unes par rapport aux autres, mais c'est le bruit de fond. Par contre, vont ressortir ici 5 pics avec des extinctions de familles beaucoup plus importantes, et ce sont nos 5 crises majeures. La même courbe, représentée sous une façon un petit peu différente, pour vous les resituer, la plus importante en intensité, c'est celle qui va marquer la limite entre le paléozoïque et le mésozoïque, entre le permien et le trias. On va perdre 50% des familles marines. Alors, je vais y revenir sur la limite permien-trias, puisque c'est mon dada et c'est de ça que je vais vous parler après. La seconde en ordre d'intensité, c'est celle du trias jurassique, aux alentours de 200 millions d'années. La troisième, c'est celle qui marque la limite entre l'ordovicien et le silurien, aux alentours de 435 millions d'années. La quatrième, au dévonien supérieur, aux alentours de 365. Et la dernière, et oui, la petite dernière, qui vous voyez beaucoup moins importante que les quatre autres, c'est celle qui marque la limite entre le Crétacé et le Tertiaire à 65 millions d'années. Alors, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de la limite Crétacé-Tertiaire, puis en fait, elle est toute petite, et même si vous regardez bien, il y en a d'autres qui seraient pratiquement de la même importance, dont on ne parle pas. Alors, je voudrais attirer votre attention, puisque le titre de ma conférence était « Mythe ou réalité » sur les courbes. Je vous en ai déjà montré un certain nombre, je vais vous en montrer d'autres. Alors ici, je reprends la courbe des familles marines, et donc ici, ce sont les pourcentages de familles marines. Donc ici, vous voyez, on retrouve nos 5 crises avec des chutes plus ou moins importantes de ce nombre de familles au cours du temps. Je vous en montre une autre ici qui représente les pourcentages de familles terrestres. Alors là, si on cherche, les pics sont un peu moins nets. Alors ici, effectivement, il se passe quelque chose à la limite Permien-Trias, mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus tard, c'est au cours du Trias. Puis le reste du temps, il n'y a pas vraiment d'extinction très marquée. Si on mélange les deux, famille marine, famille terrestre, on arrive plus ou moins à voir qu'il se passe effectivement quelque chose. On a toujours quelque chose de bien net à la limite Permien-Trias, le reste, c'est moins net. Si on prend les genres, là, par contre, on a des pics, genres marins, pardon, j'insiste. Là, les pics sont beaucoup plus marqués, effectivement, au niveau générique. Si on prend maintenant quelques exemples continentaux, ici les plantes vasculaires, vous avez ici la limite Permien-Trias, qui est en fait, donc vous voyez, il y a effectivement une diminution du nombre de plantes vasculaires, ici à la limite Permien-Trias. Le reste du temps, il ne se passe pas grand-chose. Les tétrapodes continentaux, la limite Permien-Trias, en fait, on a un pic d'abondance. La limite Trias jurassique, peut-être. La limite Crétacé-Tertiaire, oui, il y a un petit. Ça commence à être un petit peu angoissant, toutes ces courbes qui ne nous disent pas la même chose. Si on prend les niveaux supérieurs de systématique, chez les phylas, il ne se passe pratiquement rien. Si l'on prend les classes, vous avez ici ces 5 flèches qui représentent les 5 crises majeures. Là, il se passe quelque chose au niveau des ordres aussi. À la limite, Permien-Trias, oui, ça, super, il se passe quelque chose. Là, à la limite Trias jurassique, au niveau des ordres des classes, il ne se passe pas grand-chose. Ici, oui, un petit peu, limite Crétacé-Tertiaire. Allez, encore une, pour se remonter le moral, qui, ici, représente, en fait, le nombre d'espèces décrites en fonction de ce que les auteurs ont travaillé. Alors, je vais prendre la courbe jaune, donc 600 millions d'années, hein, l'explosion du Cambrien jusqu'à l'actuel. Cette courbe jaune, elle représente le nombre de kilomètres carrés qui ont été étudiés par les auteurs. Donc vous voyez, bah, ici au début, on n'a pas étudié grand-chose, on a étudié beaucoup de choses aux alentours de 450 millions d'années, beaucoup ici aux alentours de 250, puis alors sur le récent, on en a étudié des quantités absolument phénoménales. Ici, le nombre de spécialistes par âge, alors vous voyez, bah, c'est directement corrélé, forcément, plus on a des spécialistes, plus on couvre de surfaces géographiques, et les périodes les plus récentes sont bien sûr les plus utiles, les plus étudiées. Et ce qui donne un peu à frissonner, c'est cette courbe ici qui représente le nombre d'espèces. Et donc le nombre d'espèces est directement lié au nombre de spécialistes qui les ont étudiés et au nombre de kilomètres carrés qui ont été fouillés, étudiés. Donc on se dit, bon, bah, d'accord, eh ben, c'est pas très très bon pour le moral, tout ça, ces crises, c'est quoi? Est-ce que c'est du pipeau, c'est en l'air? Et puis il faut aussi que j'ajoute quelque chose, c'est que toutes les courbes que je vous ai montrées précédemment sont, datées, sont basées sur des données qui datent des années 70-80, à l'époque où les scientifiques pouvaient encore faire des grandes synthèses. Maintenant, avec notre règle du jeu, on ne peut plus s'amuser à ça. Donc en fait, il n'y a pratiquement aucune base de données vraiment récente sur l'ensemble des gens, l'ensemble des familles. Donc on fait avec ce qu'on a, et donc ce sont des données qui sont relativement anciennes. Groupe par groupe, effectivement, on a des données récentes. Par exemple, sur les ostracodes, on est à peu près au fait de tout ce qui se passe à la limite Permien-Trias, mais c'est sur un seul groupe. Donc tout ça, c'est pour bien vous montrer que ce que je vais vous raconter après, il faut le prendre avec une certaine, un certain recul. Alors, je vais donc vous parler d'une seule crise, parce que je n'ai malheureusement pas le temps de... Et puis, vous seriez complètement anesthésié si je vous faisais les cinq crises. Je vais donc vous en parler d'une seule, la plus importante, celle qui marque la limite entre le Permien-Trias il y a 250 millions d'années. Donc, je vous remonte cette courbe. C'est la grande crise avec une perte de 50% des familles marines. Donc, je vous resitue un petit peu sur une carte palinspastique. J'aime beaucoup ce mot-là. C'est-à-dire ou simplement une carte où les continents sont replacés dans la position qu'ils avaient à l'époque, donc à la fin du Permien. Les continents sont reliés en une masse unique, que l'on appelle la Pangée, entourée par un océan absolument gigantesque qui s'appelle la Pantalassa, et la Pangée est incisée en son milieu par un très grand océan qu'on appelle la Paléothétis. Le problème pour étudier, un des problèmes pour étudier la limite Permien-Trias, c'est qu'en fait il y a très peu de sites dans le monde où les affleurements sont disponibles et nous permettent d'étudier cette limite. Donc en rouge sont représentées les différentes régions du monde où l'on peut voir la limite Permien-Trias en milieu marin. Mais le problème, c'est qu'il en manque pratiquement partout un bout. Soit il nous manque un bout du Permien, soit il nous manque un bout du Trias, donc ce n'est pas vraiment terrible. La coupe, la région qui a été choisie pour être le stratotype de la limite Permien-Trias, eh bien, elle se situe en Chine du Sud. Donc, je vais vous emmener un petit peu en Chine. Donc, vous avez ici la carte de la Chine. Pékin est situé là. Et le stratotype, c'est le stratotype de Meishan, qui est situé à environ 100 km à l'ouest de Shanghai. Donc, je vous présente ici le stratotype de la limite Permien-Trias à Meishan. Nos collègues chinois ne faisant rien dans le petit, ils nous ont fait quelque chose d'absolument magnifique. Vous avez ici une fresque en marbre qui vous retrace toute l'histoire de la vie. J'attire votre attention sur l'échelle. Et donc, vous avez ici à quoi ressemblait en 2005 le stratotype, puisque depuis, ça a beaucoup changé. Donc, la coupe type, eh bien, en fait, elle est située ici, en haut de ces marches. On monte pratiquement à l'hôtel pour aller voir la limite entre le Permien et le Trias. Et ce site, bien sûr, comme c'est un stratotype, il est protégé. Donc, il est hors de question d'aller échantillonner et casser les cailloux sur ce stratotype. Qu'à cela ne tienne, ça n'a posé aucun problème à nos collègues chinois qui ont éventré toute la colline de part et d'autre, de ce côté-ci et de l'autre. Et là, on peut travailler comme on veut sans aucun problème sur cette limite. Alors, petite anecdote sur ce stratotype de Meishan. Je vous ai dit que c'était situé à 100 km à l'ouest de Shanghai. C'est une région qui est extrêmement productrice de charbon dans le Permien inférieur. Et Shanghai est un très grand port, en particulier un port militaire. Et toute cette zone, entre Meishan et Shanghai, était un immense camp militaire, un camp militaire géant. Une des conditions sine qua non pour avoir un stratotype, eh bien, c'est de pouvoir laisser libre accès aux scientifiques du monde entier pour pouvoir y travailler. Donc là, ça posait un problème majeur dans un camp militaire. Eh bien, ça n'a posé pas trop de problèmes aux autorités. Ils ont démilitarisé toute cette zone pour que les scientifiques du monde entier puissent aller travailler à Mecha. Bon, il faut dire que le premier ministre de l'époque était quand même un ancien géologue, donc ça a un peu aidé. Donc ici, nous sommes sur la limite Permien-Trias, donc sur une colline plus à l'ouest. Alors cette limite, quand on la regarde de près, donc ça c'est le stratotype, eh bien il y a un changement majeur dans la lithologie qui sépare deux formations, qu'on appelle la formation de Shangxing et la formation de Yinken. Mais la limite officielle, il faut que ce soit quelque chose que l'on puisse reconnaître à l'échelle globale. Donc un changement de faciès, ça ne peut pas être quelque chose à l'échelle globale. Il a donc été décidé que la limite Permien-Trias serait marquée par l'apparition d'un conodonte, qui est ici, qui est Indeodus parvus. Alors il y a un décalage, et c'est vrai pour pratiquement toutes les coupes de la limite Permien-Trias en milieu marin, entre l'événement d'extinction majeure, qui va se situer ici, à la limite entre les deux formations, et la limite officielle, qui passe au milieu d'un banc calcaire. C'est quand même pas top, mais bon, c'est comme ça. Donc, il y a un petit décalage entre la limite officielle et les événements d'extinction majeure. Alors, les conodontes, très rapidement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des organites en phosphate de calcium qui existent depuis le Cambrien supérieur et s'éteignent à la fin du Trias. Ces organites, en fait, ce sont des pièces buccales qui ont été retrouvées sur des formes vermifuges. Alors, il y a eu des discussions sans fin pour savoir si ce sont des vertébrés ou si ça n'en est pas. Aux dernières nouvelles, ce seraient des vertébrés primitifs. Et voici une reconstitution de ce vertébré primitif qui porterait dans sa partie buccale ces assemblages de conodontes. Je ne résiste pas à vous montrer cette merveilleuse photo prise dans le musée de Mecham avec la reconstitution de cet animal conodonte. C'est terriblement kitsch. Bien. Alors revenons donc à notre limite Permien-Trias. En milieu marin, 57% des familles ont disparu, enfin des familles présentes dans le Permien ont disparu. Ce qui fait une évaluation d'environ 83% des genres et 96% des espèces. Cela veut dire qu'à cette époque, à la fin du Permien, pratiquement toute la vie a disparu sur Terre. Alors, quels sont les groupes qui ont complètement disparu à cette limite, qu'on ne retrouvera plus tard dans le Mésozoïque ? Le groupe emblématique du Paléozoïque, ce sont les trilobites. Vous avez ici quelques exemples de trilobites. Sur le diagramme ici, donc, qui vous montre l'évolution du nombre de familles de trilobites depuis le Cambrien jusqu'à leur extinction à la fin du Permien, qu'est-ce que l'on observe ? Eh bien qu'en fait, la diminution du nombre de familles a déjà été extrêmement importante jusqu'au Dévonien supérieur, et qu'après, en fait, il ne reste que très peu de familles, et donc on a donc ici une extinction progressive. La limite Permien-Trias a marqué un coup de grâce pour ce groupe, mais ce n'était pas une extinction brutale. Autre groupe qui va disparaître complètement, ce sont les fusulines. Les fusulines, ce sont des foraminifères, qui sont donc des protozoaires, même si les fusulines sont très grandes pour les protozoaires. Ici, vous voyez chaque petite tache blanche, c'est une fusuline, et elle fait environ 1 cm. Si l'on regarde l'évolution du nombre de familles au cours du temps, eh bien on se rend compte que là aussi, c'est une extinction progressive et que la limite Permien-Trias a marqué un coup de grâce. C'est donc ici aussi une extinction graduelle. Si l'on regarde les groupes qui vont encore s'éteindre à cette limite, chez les coraux, les rugueux et les tabulés. Donc vous avez ici le nombre de genres de rugueux et ici le nombre de genres de tabulés. Et là, par contre, on voit que l'extinction est extrêmement brutale à la limite Permien-Trias. Là, ça s'arrête d'un seul coup. C'est vraiment une extinction brutale. Tout le milieu récifal, qui était extrêmement bien développé à la fin du Permien, va disparaître complètement et on ne le retrouvera pas avant le Trias, au moins la fin du Trias inférieur. En particulier, si on regarde ce qui se passe en Chine du Sud, là où les séries sont les mieux conservées, eh bien, il n'y a aucune extinction graduelle chez ces deux groupes de coraux, c'est vraiment une extinction brutale. Alors, il y a d'autres groupes qui vont être extrêmement affectés par les événements, mais qui ne vont pas disparaître complètement. Chez les céphalopodes, je vous montre deux exemples. Ici, les goniatites, Donc vous voyez ici la limite Permien-Trias. Donc vous voyez qu'on va observer une sorte d'étranglement en goulot de bouteille, donc avec une diminution extrêmement importante du nombre de genres, de familles, de la biodiversité, mais ils vont reprendre du poil de la bête par la suite et ils vont se redévelopper au Trias. Les orthocératides, qui sont des céphalopodes déroulés, eux, ben, ils vont diminuer aussi tout durant le Trias. Ils vont passer la limite Permien-Trias, mais c'est la limite un petit peu plus tard qu'ils vont s'éteindre. Les brachiopodes, un groupe extrêmement abondant, extrêmement diversifié, très riche au Paléozoïque. Ils vont subir une chute absolument phénoménale à la fin du Permien, et puis ils se redévelopperont, mais de manière beaucoup moins importante, au cours du Trias. Les gastéropodes, eh bien, là aussi, un déclin progressif, et puis à la limite Permien-Trias, ben, ils semblent disparaître. C'est-à-dire que dans la base du Trias, on ne les retrouve plus. On se dit, tiens, c'est bon, ils se sont éteints. Et puis, plus tard, dans le Trias, on les retrouve. C'est typiquement ce que l'on nomme un effet Lazare. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression qu'ils étaient éteints, mais en fait, ils ne l'étaient pas, simplement parce qu'on n'a pas retrouvé de fossiles. Et puis, ils ressuscitent un petit peu plus tard. Et puis, il y a d'autres groupes qui vont bien sûr être affectés, mais qui ne vont pas disparaître complètement. C'est le cas des autres foraminifères qui ne sont pas les fusulines. Donc vous voyez aussi diminution de la biodiversité et ça repart au-dessus. Et chez les bivalves aussi, là ils sont vraiment moins affectés que les autres groupes. Dans le milieu continental, donc là je vous ai parlé du milieu marin, j'insiste vraiment sur la différence entre les deux. Alors on a des preuves de changement entre les faunes et les flores, entre le Permien et le Trias. Mais dans le milieu continental, on a un énorme problème de résolution stratigraphique. C'est-à-dire, est-ce que l'on surestime ou est-ce qu'on sous-estime l'intensité de la crise ? C'est un énorme problème. Il faut savoir que la biodiversité actuelle, en milieu continental, représente 85% de la biodiversité totale. Donc c'est le milieu continental qui est le plus varié. Et dans le registre fossile, c'est celui qu'on a le plus de mal à appréhender. Donc là encore, prudence sur les données dans le continental. Je vous montre ici des photos qui ont été prises dans le sud de l'Oural. On a environ 3000 mètres de série rouge, de série continentale rouge, et la limite Permien-Trias, eh ben, elle passe quelque part par là. Et on ne sait pas où. À la base de la série, on a quelques fragments de poissons qui nous disent qu'on est dans le Permien. Au sommet, la même chose, quelques fragments de poissons qui nous disent qu'on est dans le Trias. Mais on ne sait pas. On est incapable de mettre la limite. Vous voyez, il y a vraiment un énorme problème en série continentale. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Ce qui est évident, c'est qu'on a une modification des assemblages. Si on prend par exemple la flore, au carbonifère supérieur, c'est la grande période houillère, on a des flores avec des grandes feuilles qui sont adaptées au milieu chaud et humide. Et l'on va passer au Trias à des flores qui vont être beaucoup plus adapté à des milieux très secs. Donc on a une modification progressive et un changement dans les types de faune entre le Permien et le Trias. Les vertébrés, alors 77% des familles de vertébrés terrestres vont disparaître, mais avec des épisodes différents. Vous voyez, je vous ai remis cette courbe ici. La chute de la biodiversité, elle est très nette au cours du Permien, mais pas vraiment à la limite Permien-Trias. De même, elle sera aussi importante au cours du Trias, mais pas juste à la limite. Donc là aussi, il faut prendre les données avec beaucoup d'attention. Donc en conclusion sur les données, ce qu'on peut dire, c'est que cette extinction en masse de la limite Permien-Trias, eh bien, elle est nette, intense, c'est indiscutable, surtout en milieu marin. Il y a des arguments en faveur d'extinction graduelle, je vous l'ai montré, par exemple les trilobites ou les fusulines, mais on a aussi des arguments qui nous disent qu'il s'est passé quelque chose de brutal, par exemple les coraux. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe à l'échelle de la planète et qui a pu causer une telle extinction biologique. Alors, tout d'abord, j'insiste sur le fait qu'à ce jour, il n'y a pas de traces d'impact prouvées, traces de chute de météorites prouvées à la limite Permien-Trias. Ça a été la grande mode pendant un certain nombre d'années. Il fallait mettre des chutes de météorites partout. À toutes les crises, il fallait mettre des chutes de météorites. Alors, on a essayé de nous en vendre un au large de l'Antarctique. Jusqu'à preuve du contraire, les arguments sont on ne peut plus ténus et personnellement, je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose de prouvé actuellement. Par contre, Ce qui s'est passé au cours du Permien supérieur, c'est une régression, c'est-à-dire une chute du niveau marin, et la formation, la fermeture de ce continent unique dont je vous parlais tout à l'heure, la Pangée. Alors tout d'abord, cette régression majeure, cette chute verticale du niveau marin. Ici, je vous montre une courbe qui représente les variations du niveau marin depuis le Permien inférieur jusqu'à la limite Permien-Trias. Donc si on lisse cette courbe, on s'aperçoit que l'on va passer d'environ 200 mètres ici, au cours de la fin du Permien inférieur, et que l'on va chuter ici d'environ 200 mètres. On va avoir une baisse verticale de 200 mètres du niveau marin. Donc ce qui veut dire que si vous enlevez 200 mètres d'eau verticale, vous allez découvrir l'essentiel des plateaux continentaux. Toute la vie qui vivait sur les plateaux continentaux va être détruite. Associé à ça, et c'est directement lié, c'est la formation finale de la Pangée. Alors je vais vous montrer différentes étapes. Ici, c'est le Permien inférieur, avec une très grande glaciation sur le sud du Gondwana, les chaînes qui se sont formées pour réunir la Laurasia et le Gondwana. On a encore des bras de mer ici, et le Gondwana est bien localisé dans la partie sud de la Pangée. Au Permien supérieur, on voit que le couloir ouralien en particulier commence à se fermer, et surtout que l'ensemble du bloc continental dérive vers le nord. Et au Trias inférieur, la Pangée est complètement fermée, a migré encore plus vers le nord, les glaciations ont complètement disparu, et vous voyez donc que l'on a une masse unique continentale, ce qui est quand même une configuration assez exceptionnelle dans l'histoire de notre planète. Conclusion, conséquence de cette formation de la Pangée, diminution des surfaces disponibles sur le plateau continental. Si vous faites des collisions entre les blocs, les plateaux qui étaient entre deux, ils ont disparu. Diminution des couloirs de circulation et, c'est ce qui est aussi très important, la modification des climats. C'est-à-dire que comme vous n'avez plus de circulation océanique, les climats vont forcément être modifiés. Donc le deuxième point important qui va avoir un impact très fort sur la biodiversité, c'est le changement climatique au cours du Permien supérieur. Donc je vous présente ici deux courbes qui représentent exactement la même chose et qui vous montrent que l'on va passer d'un climat avec glaciation à un climat sans glaciation. Ici, c'est le gradient latitudinal. En fait, c'est plus facile de le regarder là. Vous avez ici l'équateur, le pôle sud, le pôle nord. Au Permien inférieur, on a des glaciations, donc on a une amplitude entre les pôles et l'équateur qui est très importante. Au fur et à mesure du temps, avec la remontée de la Pangée vers le nord, la disparition des glaciations, en fait, on ne va avoir pratiquement plus d'amplitude entre les pôles et l'équateur. Donc la température va énormément monter. Ici, une carte de modélisation. Alors, vous apercevez ici en noir les contours de la Pangée et les températures moyennes de surface à la fin du Permien. Donc vous voyez qu'ici, sur le centre du Gondwana, par exemple, on frôle quand même les 38 degrés. Ici, dans les eaux de surface de l'océan de la Pantalassa, on est aux alentours de 34 degrés. Ça commence à faire très chaud. Ces deux points, la régression, la formation de la Pangée, le changement climatique, ce sont des choses qui vont se dérouler graduellement sur environ 6 à 8 millions d'années. Un autre événement va venir s'ajouter à tout ça, et ce juste à la limite Permien-Trias, c'est le volcanisme. Ce volcanisme de la limite Permien-Trias est caractérisé par les trappes de Sibérie. Alors vous avez ici deux photos des trappes de Sibérie. Sur cette carte qui vous montre la Russie, en hachuré, c'est l'affleurement actuel de ces laves de Sibérie. Et en pointillé, c'est ce que l'on estime qu'était la surface à l'origine, la surface couverte par ces laves. Alors, ce sont des coulées stratoïdes de lave. C'est un volcanisme fissural avec des basaltes. La surface actuelle est d'environ 1,5 million de kilomètres carrés. Et comme je vous le disais, on estime que ça pouvait aller jusqu'à 4 millions de kilomètres carrés. 4 millions de kilomètres carrés, ça fait grosso modo l'Union européenne. L'épaisseur totale, 3700 mètres de lave. 3 millions de kilomètres cubes sortis au cours de 11 phases successives. qui ont duré environ 1 million d'années. Donc 1 million d'années, pour nous, c'est très court. On rentre dans les critères de l'extinction en masse et de la crise biologique. Quelles vont être les conséquences de ce volcanisme extrêmement important? Dans un premier temps, vous imaginez bien une telle quantité de lave, ça va obscurcir le ciel. Et à court terme, on va avoir un refroidissement général puisque les rayons du soleil ne vont plus réussir à arriver sur la Terre. On va avoir d'énormes quantités de SO2 et d'aérosols sulfatés qui vont être dégagés par ces volcans et qui auront forcément des retombées sous forme de pluie acide et qui vont avoir un impact sur la faune et la flore continentale. Vont être lâchés également par ces volcans du CO2. Le CO2, tout le monde le sait, ça crée un effet de serre et ça provoque à long terme un réchauffement de l'ordre de 4 à 5 degrés. Une élévation de température de 5 degrés, d'après ce qu'on sait, c'est pas suffisant pour expliquer une telle extinction en masse. Par contre, si l'on augmente la température des eaux, la température ambiante, de 5 degrés, cela va avoir une conséquence, c'est la relâche des gaz toxiques, et en particulier de l'H2S et du CH4. Et c'est le quatrième point qui va intervenir, en plus de tout ce qu'on a déjà vu, ce sont les relâches de gaz toxiques juste à la base du Trias. Alors le principal gaz toxique, c'est le méthane, le CH4, qui est piégé sous forme de ce que l'on appelle les clathrates. C'est-à-dire que sous des conditions de température et de pression extrêmement précises, la glace, l'H2O sous forme de glace, va piéger, ça va faire une espèce de cage, qui va piéger des molécules de gaz. Et la molécule de gaz la plus fréquente dans les clathrates, c'est le CH4. Donc vous avez ici cette molécule de gaz emprisonnée dans des molécules d'eau. Donc c'est ce qu'on appelle de la glace qui brûle. C'est-à-dire que si vous mettez le feu à des clathrates, eh bien ça brûle. Le problème, c'est que ça se met en place dans des conditions de température et de pression extrêmement précises. Donc si vous déstabilisez ces conditions de température et de pression, eh bien, vous allez relâcher ce méthane. Donc une élévation de température de quelques degrés va faire fondre la glace et va relâcher le CH4. Un volume de clathrate relâche environ 160 volumes de gaz libre. Donc l'effet de serre va être augmenté puisque le méthane est un gaz à effet de serre et va réaugmenter, va pouvoir induire une augmentation de température supplémentaire. Et là, si on fait une élévation de température de 5 degrés d'un côté avec le volcanisme, plus le 5 degrés avec les relâches de CH4, eh bien, ça nous fait quand même une augmentation de 10 degrés de la température générale. Autre gaz qui va être déstabilisé avec une augmentation de la température, c'est le sulfure d'hydrogène. Donc, je vous présente ici une figure qui a été publiée donc, pour la science en 2006 sur l'importance de ces sulfures d'hydrogène à la limite Permien-Trias. Nous avons donc nos volcans qui vont relâcher différents gaz, qui vont provoquer un réchauffement par effet de serre. Ce réchauffement va bien sûr influencer sur la température de l'océan. Plus l'océan est chaud, moins il dissout d'oxygène. Donc le taux d'oxygène va diminuer dans les océans. Dans le fond de l'océan, il y a une limite entre les fonds qui contiennent du H2S et les fonds qui contiennent de l'oxygène. Si vous changez la concentration en oxygène dans l'eau, vous allez faire remonter cette limite entre l'H2S et l'oxygène, ce qui fait que l'H2S va être libéré et va remonter à la surface de l'océan. Nous allons avoir une prolifération dans l'océan des bactéries sulfurées, qui va dévaster, bien sûr, le milieu continental. Des eaux remplies d'H2S, ce n'est jamais très sympathique pour la biosphère. Et toutes ces remontées d'H2S vont continuer à diminuer la couche d'ozone et faire que l'on ne sera plus... Les UV qui vont rester vont détruire ce qu'il restait. Et comme si ce n'était pas assez, il s'est passé encore autre chose après, juste à la fin au début du Trias. La mer qu'on avait dit avait diminué de 250 mètres verticales, la mer va remonter sur ces continents complètement dévastés et avec une température donc extrêmement élevée. Donc cette eau va être très pauvre en oxygène, l'eau chaude ne dissout pas bien l'oxygène, et va arriver sur des biotopes complètement décomposés. Donc cette transgression, cette revenue de la mer va être très dysoxique, très pauvre en oxygène. Alors, quels sont les effets de cette transgression dysoxique sur la biosphère? Eh bien, ça va être que le peu de faune qu'il y avait, de faune et de flore, mais je parle surtout de faune, qui avait réussi à survivre à toute la kyrielle d'événements qui s'est passé avant, eh bien, ça va être vraiment un coup de grâce. Les seuls organismes que l'on retrouvait avant cette transgression, des bivalves, des petits brachiopodes inarticulés, puis des ostracodes, eh bien, après, ça va être l'asphyxie totale pendant une longue période. Au Trias basal, on va avoir une période de pauvreté maximale et on ne retrouvera la vie telle qu'on la connaissait avant que bien plus tard. Et c'est une des caractéristiques de cette limite Permien-Trias, c'est la lenteur du rebond de la biodiversité. Vous avez ici un schéma extrêmement simpliste. Donc la chute de la biodiversité à la limite Permien-Trias, puis cette longue phase de biodiversité minimale qui va durer pratiquement tout le Trias inférieur pour ne rebondir qu'après et se redévelopper au Jurassique. Pour récupérer la biodiversité qu'on avait au Permien moyen, il faut attendre la fin du Trias supérieur. Donc une très très longue période où la biodiversité va avoir vraiment beaucoup de mal à se remettre en route. Donc, si j'essaie de synthétiser ça sur un petit schéma, nous avons dans un premier temps la chute du niveau marin et le réchauffement. Si avec ça, on pourrait dire ça va nous causer une extinction mineure. Là-dessus s'ajoute le volcanisme, et là, on va avoir une extinction qui va déjà prendre de l'ampleur, que je pourrais caractériser d'intermédiaire. On va rajouter les relâches de gaz toxiques, et là, nous sommes déjà dans les cinq majeures, dans les grandes crises, extinction majeure. Et puis la remontée de la mer sans oxygène qui va achever ce qui nous restait, et nous arrivons à l'extinction, la plus grande extinction de tous les temps biologiques. Cette première phase ici, c'est quelque chose de progressif qui va se passer sur 6, 8 millions d'années. Ces deux événements sont des événements beaucoup plus brutaux qui vont se passer sur des temps beaucoup plus courts. Si l'on prend l'ensemble de la crise Permien-Trias, ça se déroule sur environ 10 millions d'années. Et bien sûr, c'est cette période qui fait augmenter l'intervalle de temps. Donc si on essaie de synthétiser tout ça, et bien on va dire qu'il n'y a pas une cause, mais une sommation, une conjonction de causes pour expliquer la crise biologique la plus importante de tous les temps. C'est ce qu'entre nous, on appelle le crime de l'Orient Express, c'est-à-dire que tout le monde y est allé de son coup de couteau, et à savoir de dire est-ce que c'est vraiment ça qui a fait que c'est l'extinction la plus importante ou pas, ça paraît un peu délicat. Bien. Alors, je vous ai dit qu'il y avait cinq grandes crises. Alors, les points communs à toutes ces extinctions, c'est que l'intensité n'est pas la même en domaine marin et en domaine continental. Mais bien sûr, il faut faire attention à cette réserve que j'évoquais tout à l'heure, sur les données disponibles en milieu continental. Les organismes intertropicaux sont toujours beaucoup plus touchés que ceux des hautes latitudes. Le milieu récifal est toujours le premier à être atteint. Les organismes d'eau douce semblent mieux survivre que les organismes marins. Les organismes qui sont très spécialisés en température ou quelque chose comme ça, eh bien, vont être défavorisés par rapport aux généralistes. Et puis surtout, eh bien, les espèces qui survivent, elles s'adaptent. Quelles sont les conséquences de ces grandes extinctions? Est-ce que ça joue un rôle dans l'évolution? C'est évident. Je vous montre ici deux exemples qui vous montrent des radiations ici après la limite Crétacé-Tertiaire. Vous avez ici en jaune la limite Crétacé-Tertiaire, donc entre le Mésozoïque et le Cénozoïque, et vous voyez ici la radiation des mammifères. Avant, il n'y avait pratiquement pas de mammifères, ou très peu, et vous voyez l'explosion de la biodiversité des mammifères après les événements. De même chez les oiseaux, relativement peu diversifiés avant, et ils vont exploser en diversité après. Autre exemple, cette fois-ci à la limite Permien-Trias, vous avez ici en rouge la courbe de diversité des brachiopodes qui va chuter à la limite Permien-Trias, et puis après, ben, ils vont survivre tant bien que mal. Et par contre, les bivalves, eh bien, vous voyez, c'est l'inverse, ils vont remplacer les brachiopodes dans les biotopes. Ce sont deux types d'organismes qui ont les mêmes caractéristiques écologiques, donc qui vivent dans les mêmes biotopes. À partir du moment où les brachiopodes vont laisser la place, eh bien les bivalves vont en profiter. De même ici, au niveau des coraux, je vous ai dit que les tabulés et les rugueux avaient disparu. Eh bien c'est un autre groupe de coraux qui va prendre la relève après, au Trias, et qui va se développer, qui va occuper l'espace disponible. Donc, les crises biologiques ont un rôle important dans la libération des niches, relâchement des processus de compétition, et donc il y a une restructuration de la biodiversité post-crise. Donc tout cela est parfaitement naturel et profitable. Alors ces extinctions d'espèces, même si elles sont très brutales, ce sont des étapes naturelles de l'évolution de la biosphère. Elles favorisent la diversification des nouvelles formes, essentiellement par libération des biotopes. Mais bien sûr, ça va. Aujourd'hui, pour la première fois dans toute l'histoire de la vie sur Terre, il y a une espèce, l'Homo sapiens, qui domine de façon extrêmement importante en biomasse, et pas seulement en tant qu'être humain, mais avec tout le cortège de ce que l'Homo sapiens a besoin pour vivre, et qui modifie de façon extrêmement importante les processus naturels et cause les extinctions en masse d'autres espèces par destruction des biotopes. Alors juste cette courbe que vous avez sûrement tous déjà vue, qui est l'évolution de la population mondiale depuis le néolithique, donc depuis 5 millions d'années, ici on reprend à l'an 1, ici on reprend en 1600, et vous voyez l'évolution de cette courbe, où l'on passe de 550 millions d'années en 1600 à une évolution, à une évaluation de 9 milliards pour 2005. Ça en soi, bon. Mais si l'on regarde cette courbe, alors attention ici, ce sont les âges, mais c'est une échelle semi-logarithmique. Donc ici, le dernier réchauffement global, et ici, le début de la révolution industrielle. Les points, ce sont les humains et la faune sauvage, entre guillemets. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est celle-ci de courbe, qui est l'augmentation de la biomasse nécessaire à l'alimentation des êtres humains. On est passé ici, aux alentours de la début de la révolution industrielle. Ici, ce sont des millions de tonnes, de la biomasse en millions de tonnes, de 0,2 à 1,4 million de tonnes de biomasse nécessaire. Donc voilà, je ne commenterai pas plus avant cette courbe que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Je vous remercie de votre attention.